conflicto d'Islam vis-à-vis d'Israël, d'Ismaël vis-à-vis d'Israël. Donc le problème est ce conflit. Mais je crois que vous sachiez ça. C'est vraiment dommage que quelqu'un ait eu cette idée diabolique de nous compliquer encore les choses avec cet appel à la prière. Et ça n'a pas qu'handicapé nos tentatives d'études en commun pour arriver à trouver le chemin de réalisation de ce que Dieu avait décidé pour nous dans son plan providentiel. Ça n'a pas été compliqué. Parce que, comment formuler cela simplement? Parce que, je vous donne un exemple. Quand l'affaire du Carmel de Fuite a commencé, le père Riquet, j'ai le privilège de me considérer comme un petit homme. Et je crois qu'il est sincèrement ami des juifs et du judaïsme d'Israël. Le père Riquet a pris la position que vous savez, c'est un peu pour les carmélites. Et j'ai écrit au père Riquet en disant dans tous les cas, nous restons amis, sachez. Je commenterai bien votre réaction en tant que chrétien. Il me dit non, c'est pas une réaction de chrétien, c'est une réaction au nom de la justice. Bon, à lui, il ne pas raconter ce jour-là, mais je commenterai bien votre réaction en tant que chrétien, mais nous restons bien. C'est très vrai. Et je crois que ça ne peut que compliquer une sensibilité qui n'est pas du tout cicatrisée. Et au fond, j'en veux pas plus. Nous ne sommes pas dus. Et nous ne sommes pas non plus dus. Conflit que les Arabes chrétiens ont été. Nous sommes conscients de la difficulté que ça pose à votre conscience. En fait, l'intifada, eh bien, c'est pas ce que les journalistes ont dit, ou vous laissent faire croire à travers les médias. C'est pas du terrorisme. C'est un des épisodes que la guerre que le monde arabe nous fait depuis que les Juifs ont décidé de revenir chez eux, le pays de l'Union. C'est tout, je ne vais pas plus compliquer ça. C'est une des stratégies de cette guerre. Et nous la gagnerons, si Dieu veut, quand on a gagné les autres. On ne sait pas comment faire, mais c'est Dieu qui décide. Je vais raconter une anecdote. Au moment de la guerre des six jours, il y avait des journalistes scandinaves, je me rappelle, qui ont interrogé Moshe Dayan, il y en a un qui doit poser une colle. Vous vous rappelez de la guerre des six jours? Et il dit à Moshe Dayan, il ne croyait pas que mon Dieu vous a un peu aidé. Alors, Moshe Dayan qui répond, mais vous n'avez rien compris, c'est nous qui l'avons un peu. Il faut bien comprendre quelle est la mentalité du juif dans son histoire. Et on va raconter une histoire qui est très jolie. C'est qu'on a demandé à un juif comment il s'expliquait qu'Israël tient avec tous ses ennemis. Il y a deux raisons, une raison naturelle et une raison miraculeuse. La raison naturelle, c'est que Dieu nous aime. Et la raison miraculeuse, c'est l'amour d'Israël. C'est un vrai miracle, c'est ça. Oui, notre chef est là. Lamentablement. Il y avait une autre version de cette anecdote, c'est que nous avons deux alliés, Dieu et les armées arabes. Donc, en tout cas, revenons à notre sujet. Eh bien, en fait, c'est cela. C'est une des stratégies du refus de ce que nous avons au sionisme. Et le sionisme, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que les juifs ont décidé de mettre fin à l'exil et de redevenir les hébreux aujourd'hui. C'est ça qui déclenche tout ça. Or, à la fin de ces 2000 ans d'exil, se sont passés deux événements massifs. D'une part, la Shoah, et d'autre part, la restauration de l'État hébreu. Je voudrais en parler un peu, pour vous dire un peu dans quel sens nous voyons le lien entre les deux. Parce qu'au fond, la raison de ce que vous avez dit, c'est tout le lien entre les deux. Eh bien, je crois qu'il y a un cliché qui consiste à voir une relation de cause à effet entre la Shoah et ce que nous appelons la Tkouma, c'est-à-dire la restauration d'Israël sur sa terre. En réalité, il y a concomitance. Et c'est arrivé presque en même temps. Et c'est cette concomitance qui trompe et qui croit que l'État d'Israël, c'est la conséquence de la Shoah, ou certains disent que la Shoah était le prix à payer pour avoir l'État d'Israël, ou ça peut être encore d'une autre manière, que Dieu nous a consolés de la Shoah en nous donnant l'État d'Israël. Si c'était le prix à payer, on aurait pu attendre 6 millions d'années, parce que c'est une horreur, une crapulerie, et on appelle ça un holocauste. Ce qui s'est passé dans la Shoah. Donc, vous devinez que la tradition juive a ses propres explications de ces événements-là, et que, par définition, elles ne sont pas blasphématoires. Il ne s'agit pas d'imputer à Dieu des conduites monstrueuses. Il s'agit du Dieu de la Bible, et pas de tel ou tel fantasme religieux, philosophique, Or, tout ce qu'on raconte sur la Shoah et sur le lien avec l'État d'Israël, c'est des blasphèmes. Et en fait, ce sont deux événements qui adviennent à une période de fin d'exil. Alors, vous avez une pente négative. Dans cet endroit de l'exil, ça culmine, ça aboutit dans les contemporains. Et c'est pas la première fois. Et puis, l'autre pente positive, de décrocher l'identité juive de l'exil, un peu comme Abraham a décroché de son identité araméenne de l'église, de l'exil, dans la vie. Et redevient hébreu. Alors c'est arrivé en même temps. Pourquoi c'est arrivé en même temps? Parce que les événements du temps de fin d'exil. Et nous sommes avertis par les prophéties et par tout l'enseignement traditionnel de Rabbin que si on s'entête dans l'exil alors que c'est plus le temps d'exil, toutes les catastrophes sont possibles. Et nous avons nos propres explications théologiques. Et d'autre part, cette chose à laquelle on s'est habitué parce qu'on est contemporain, mais on ne voit pas le caractère massif, énorme, ce peuple, moi j'étais juif avant la guerre mondiale, le mot de juif, c'était la pire des ordures de l'humanité. Subitement, c'est la panique partout qui s'est assortie. Et ce qui se passe, c'est un tout petit peuple, un peuple d'esclaves, un peuple de... Bref, ce qui est en train de se passer ici. Il faut être mystique pour croire que c'est les juifs qui font ça. C'est le bon Dieu qui fait ça. Ne pas croire ça, c'est être mystique. C'est le bon Dieu qui fait ça. Et alors, il le fait avec ses juifs. Alors, c'est lui qui s'est sauvé. Et encore une fois, c'est tout à fait normal que nous ayons supporté ces deux énormes rivalités. Esaïe d'un côté, je vous ai promis d'en dire un peu plus, c'était, je vous dirai assez rapidement, vous direz suffisamment clair, qui fonde la chrétienté qui nous dispute le ciel, pas la terre. On peut avoir une place sur terre, mais pas dans le ciel. Et puis l'islam, c'est l'inverse, pas le ciel. Ah, ils savent que le ciel, c'est ami, c'est la maison de notre père. Mais c'est la terre qui nous dit. Alors il ne reste que le raison. On appelait ça l'exil. Alors, et finalement, on a décidé que ça suffisait et qu'on retrouverait le ciel de notre terre et la terre de notre ciel. Alors, encore une fois, ça pose des problèmes. Alors, pour cette identification, cette typologie, et je m'arrêterai là, je donnerai deux formules. D'abord, une formule historique. Il est bien évident que la conscience chrétienne est apparue lorsqu'il y a eu alliance entre Rome et l'Idumée contre la Judée. Alors, comme vous savez, l'Idumée, les idées européennes, c'est le peuple des Aïe. Et donc, l'identité chrétienne est apparue dans une incarnation dans l'histoire de Rome du potentiel d'identité des Aïe, avec les mêmes équations de problématiques par rapport à Rome. Et alors, il y a eu l'histoire d'abord de la Rome païenne, ensuite de la Rome chrétienne. Et très rapidement, la tradition juive a s'habitué à faire une équation typologique entre Édom, Ésaü et Rome. Et lorsqu'un juif dit Rome, alors pour lui, c'est simultanément, bien que dans la perspective historique de ces deux étapes, c'est très différent, la Rome païenne puis la Rome chrétienne. Et lorsqu'un protestant dit Rome, il a une autre connotation, et nous la comprenons. Mais lorsqu'un juif dit Rome, eh bien c'est finalement ce qui culmine dans des moments comme l'Inquisition et la Shoah. Alors bien entendu, il est clair que nous n'imputons pas du tout à la conscience chrétienne comme telle la Shoah. Pas du tout. C'est les nazis, c'est les allemands. C'est clair. Seulement voilà, d'où ça a surgi? Ça a surgi de l'interpellation de révélation de rivalité d'identité entre l'Église et Israël que Hitler a ouvert à son compte à sa manière. Et euh, La deuxième formule, c'est une formule typologique. Eh bien, qui est le frère de Jacob, qui n'est pas Jacob, mais qui se prétend Israël, historiquement,
c'est l'Église,
par rapport à Israël. Alors c'est énorme ce qu'on vient de vous dire là. Comment penser l'issue de cette histoire? Comment penser la réconciliation entre Isaac et Ishmaël à un certain niveau, entre Jacob et Ésaü à l'autre? Eh bien, vous pensez bien que si Dieu nous a révélé sa Bible, c'est qu'il nous a révélé premièrement le sens de notre histoire avant de nous donner la loi du comportement. C'est pas pour rien que la Bible a une préface historique avant la loi. Parce que nous avons la Torah, le grand apôtre, est un livre auquel l'habitude, la familiarité nous masque le problème qui se pose. Il y a deux sujets radicalement différents dans le même livre. C'est un livre d'histoire et c'est un livre de loi. Mais c'est ce mélange. Et une préface historique qui explique qui est Israël qui va recevoir la loi, et a ensuite la loi que cet Israël reçoit. Maintenant, ce récit de l'histoire. Et vous pensez bien que là, ce n'est pas tous les rabbins qui ont ces connaissances-là, mais vous avez entendu parler quand même de la tradition rabbinique, elle est lise, elle est vraiment lise. Eh bien, qui connaissent ce délire de la vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette histoire se fait par des hommes qui ne la connaissent pas. Je vous garantis que quand Moshe Dayan a décidé qu'il a peut-être révélé le récit à Tarba, il ne connaissait pas le texte qu'il était en train de réaliser. Et peut-être qu'il connaissait, je ne sais pas, mais probablement pas. Okay. Et ça fonctionne okay, comme ça. Alors je vous en dirai pas plus, parce que ça va vous donner des cauchemars. Parce que ça donne le vertige de découvrir subitement que non seulement c'est vrai, mais c'est vrai que c'est vrai. C'est trop. Mais en tout cas, c'est ça, notre foi. Et par rapport à la foi. Voilà, vous avez la parole. Si vous avez des questions. La conscience chrétienne est apparue dans l'immanence entre Rome et Hérode. D'où le rôle de Hérode en réponse là de toute cette génération. C'est-à-dire Rome a assumé, je sais employer le terme un peu précis, a incarné, a assumé la rivalité de l'entreprise entre les deux. Elle l'a vu dans l'histoire de nous-mêmes dans l'histoire.
Sur la question les droits des chrétiens n'existent pas dans les
églises. Oui, voilà. Oui, très bien. Bonne question. Bonne question. Non, évidemment. Nous avons inventé toutes les églises. On n'a aucune idée de ce que les gens ont inventé comme églises. Je me recorde à votre question qui vous concerne. Écoutez-le. Il y a des juifs qui ont voulu monter un complot des Jésus-Christ et en prendre les Français. C'est-à-dire prendre l'ennemi à Rome, judaïser Rome, vaincre Rome dans la judaïsation. Mais le résultat, c'est qu'ils se sont fait remonter. Et ce complot, les rabbins ont refusé. Ils savaient à l'avance que ça marchait. Et si un jour nous lisons les évangiles ensemble, vous aurez des surprises. C'est comme un vécu qui est inscrit. Et pour bien comprendre profondément dans leur profondeur et de symbolique mystique et historique, il faut se replacer dans la conscience culturelle judéenne de l'époque. C'est absolument. Et alors, et je vais simplement vous parler en survol de quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappé. C'est la généalogie du Christ dans Matthieu. Alors, si vous voulez reprendre, si vous avez une Bible, le premier chapitre de Matthieu. Merci. Attendez, je ne peux pas oublier tellement cette pagination. Si quelqu'un peut le mettre,
oui,
Matthieu. Et alors, je vais essayer de vous montrer comment, à notre sens, les rédacteurs des évangiles ont laissé des clés Et d'ailleurs, saint Paul, quelque part, indique qu'il arrivera un temps où on saura vraiment à qui appartiennent les promesses, les alliances, etc. C'est saint Paul lui-même. Et ils ont rendez-vous probablement ici, de notre temps, il y a 2000 ans. Et c'est que ce que je veux dire, c'est que notre conviction, c'est les choses dont je vous ai un peu parlé, eh bien, c'est les fondateurs du christianisme qui le disent, c'est pas moi. Nous le lisons dans vos textes. Et que c'est intentionnellement que les rédacteurs des évangiles ont raconté leur foi. Voilà encore une preuve. Alors, vous avez dans la première lettre, donc j'aime la mesure de Matthieu, trois paragraphes de 14 générations chacun. Et ceci se base sur une description d'une grâce, le temps d'Israël et le temps lunaire. La 14e jour, c'est la prochaine de la lune. Alors vous avez donc 14 générations qui vont de Abraham à la destruction du premier temps, ensuite 14 générations de l'exil de Babel, et ensuite 14 générations qui aboutissent à la naissance du Christ. C'est clair, bien? Bon. Et alors, je vous lis le début. Je vous lis pour mettre en évidence qu'est-ce que le rédacteur juif de ce texte a voulu en faire entendre. Voilà, livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, jusque-là c'est caché. Isaac. Isaac engendra Jacob, ça va encore. Jacob engendra Judas et Sèvres. On est habitué, a priori, à la notion de Joseph et ses frères. Qu'est-ce que vient faire de Judas et ses frères? Alors on va retrouver cette, comment dire, cardinalité familiale à la fin du troisième paragraphe. On voit qu'un certain Matthan engendra un certain Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle le Christ, et en fin de compte, on va nous raconter la foi chrétienne à ce niveau-là, où il y a 12 apôtres, et où un certain Judas est l'antagoniste du fils Thérèse, Joseph étant le père Thérèse. Alors, je vais vous dire maintenant cela, c'est qu'il y avait d'abord une première tentative de la messianité, de type Judas. Et il faut la comprendre dans le récit de l'histoire des patriarches. Dans le récit de l'histoire des patriarches, nous voyons une rivalité s'installer entre la messianité selon Judas et la messianité selon Joseph. Il s'agit du Joseph, fils de Jacob, le patriarche. Joseph voit le plan de la messianité hébraïque à l'extérieur d'Israël, dans la civilisation du temps. Et dans le temps, cette civilisation, c'était l'Égypte. Judas, qui a avec ses frères l'expérience de l'échec de cette messianité-là, autant de l'exil de Jacob chez Laban, les frères de Joseph étaient tous adultes, Joseph vient de naître quand Jacob décroche l'exil de chez Laban, étaient tous adultes, et ils ont vu l'échec de cette stratégie messianique où Jacob est le berger des troupeaux de la civilisation israélienne. Ça, c'est la messianité selon Joseph. Alors que Joseph rêve à la messianité hébraïque, eh bien, il rêve à cette messianité selon Joseph, là où il fait nuit, il fait sa lumière, et là où le blé pousse, il faut préparer la Pâque. Et finalement, Judas et Joseph, de la famille de Patriarche, s'opposent sur deux conceptions hébraïques de la messianité. Et tout le récit biblique, c'est pour nous montrer que la santé de Joseph a toujours été un jour. Et ça, c'est judaïsme. Judas est. Alors, le rédacteur des évangiles, pour l'instant, nous dit, il y a eu une première messianité, la messianité de Judas. Et puis voilà que nous fondons la messianité de Joseph. C'est pas par hasard que ce Joseph s'appelle Joseph, qu'on lui donne un père qui s'appelle Jacob, qu'on va définir un Iscariote qui s'appellera Judas. Il y a trop de coïncidences, c'est pas des coïncidences. C'est un texte qui sait ce qu'il veut et qui nous explique. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons aller à Rome et fonder le rêve de Joseph, mais un rêve qui réussira. Joseph d'Égypte, ça n'a pas réussi. C'est Judas qui a pris le relais à la sortie. Mais là, ça réussira. Et on apprendrait la messianité d'un fils de Joseph, et l'empêcheur de tourner en rond, c'est un certain Judas, comme par hasard. Voilà, j'espère que je vous ai terrifié. Alors rassurez-vous, c'est cette histoire-là, c'est l'histoire sainte. Mais, et encore une fois, les rédacteurs des évangiles savaient quel était le message qu'ils voulaient. Or, ce qui s'est passé dans quelques moments, c'est que cette messianité de Joseph a assumé la rivalité des hommes de Dieu. Voilà pourquoi, je vous ai indiqué ça rapidement tout à l'heure, de la forme de la fête de Dieu. Vous l'indiquez. Alors, je prends très bien le drame de la conscience chrétienne, qui se croit être Jacob, et qui, d'ailleurs, s'est arrivé dans la théologie, surtout catholique, surtout les théologiens espagnols, qui ont projeté sur Israël l'image de Dieu dans les hommes de Dieu. Vous connaissez tout. Alors, imaginez dans quel méli-mélon il existait. Parce que finalement, le bon Dieu, lui, il n'est pas théologien, c'est le créateur des mondes. Et puis, ce qui se passe selon sa volonté. Et on n'a que 2000 ans après, subitement, l'Église a un traumatisme considérable. Elle s'aperçoit que peut-être c'est les Juifs qui sont Israël. Peut-être. Et c'est là en contre-motif. Et alors, et si ce sont les Juifs qui sont Israël, l'Église, c'est quoi? Et c'est dans ce drame-là qu'apparaît la rivalité Ismaël-Isaac. Et alors, nous avons malheureusement trop souvent l'impression d'une alliance entre Ésaü et Ismaël. Et cette alliance fonctionne. Elle fonctionne au Vatican, elle fonctionne à Washington, elle fonctionne à Moscou, elle fonctionne dans le monde entier, cette alliance. Et voilà pourquoi le problème qui vous a été posé est un problème difficile. Comment allez-vous réagir? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, le seul fait que cette initiative ait été prise vous met dans un piège. Parce que je suis persuadé que vous le ressentez un peu à la manière dont je l'ai exprimé, mais dans votre vocabulaire, dans votre expérience. Voilà. Pour cette question. Israéliens. Il ne faut pas leur projeter un problème à soudre. Mettez-vous à leur place. Ils font partie de la nation arabe et on fait comme si c'était juif. C'est trop, on leur impose un problème à soudre. Continuez.
Donc, si vous voulez, cette vision des choses, c'est une première impression du judaïsme, développe une vision du judaïsme qui est très particulière.
Très particulière, vous voulez dire. Vous parlez culturaliste, mais j'ai vraiment plus particulariste.
Et bien que les Juifs, c'est par exemple.
Les Juifs, c'est.
Grossir le trait très fort, on a l'impression que Israël est une terre d'asile pour que les Juifs soient à l'abri du danger, et puis qu'ils y passent de la piété juive, donc on est très animé.
Très bien.
Mais ce sens.
Je vais vous montrer qu'il n'en est rien.
Et
je vais vous dire, il y a une pudeur juive. Écoutez, essayons de décrire ça comme ça. Mettez-vous à la place du juif. S'il n'avait pas cette humilité, il tomberait dans le vertige. Ça veut dire qu'il y a un humour juif qui nous permet de tenir le coup. Mais si on se prenait au sérieux, c'est énorme. Ça veut dire que nous sommes censés être ce en quoi vous croyez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si on vous croyez, nous sommes censés l'être dans l'existence. Et alors, imaginez ces Juifs pris de panique quand ils ont à prendre au sérieux des phrases comme ça, que le bon Dieu leur dit c'est quoi mon fils aimé. Mais s'ils connaissaient au sérieux, ils ne finiraient pas le croire. Il y en a un qui l'a cru. Bon, ils ne finiraient pas le croire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je comprends, moi, que les Juifs ne savent pas s'en sortir pour expliquer en quoi ils sont ce que Dieu dit qu'ils sont. Vous comprenez? Et il y a là une réaction de défense de la conscience qui parfois les fait prendre un vocabulaire athée. Et ils disent qu'ils sont athées parce que s'ils étaient croyants, ils se prendraient pour mon Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, si un jour vous avez réfléchi à ce phénomène étrange, qu'est-ce que c'est un juif athée ? Eh bien, c'est une des dimensions du problème. Ça les préserve de devenir fous. Parce qu'il faut être d'une drôle, énorme bonne santé mentale et spirituelle pour ne pas devenir fou avec une histoire pareille. Je ne sais pas si c'est clair. Et alors, j'ai souvent l'habitude de dire que il y a un humour colossal dans la Bible. On ne s'en rend pas compte quand on va lire dans la Bible. Dès qu'on commence à la lire en latin, ça devient hiératique, ça sert de pas le nom du plus. J'essaie de traduire de l'hébreu. Et je vous donne un exemple de l'humour dès le début du récit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Résultat, la terre était chaos. Alors, on passe, on dit ok, et on passe. On ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Et preuve de nous, si ce n'était pas Dieu qui avait créé la terre, on sait. Alors, ça veut dire qu'il y a un message, mais qui s'est adressé à une certaine manière d'être homme dans une certaine langue, et qui est la langue des prophètes de Dieu.
Bien. Sur deux sujets qui, apparemment, n'ont rien à voir avec eux. Je dis bien apparemment parce qu'en fait, ces sujets sont plus liés qu'il nous paraît. Et de toute façon, nous chrétiens vivant en Israël, nous chrétiens vivant en contact du peuple juif, nous vivons ces deux sujets. Le premier, c'est l'intifada, qui entraîne donc le problème palestinien, qui entraîne des prises de position chrétiennes qui réclament la justice et qui souvent aussi s'accompagnent de condamnations implicites ou explicites à l'égard d'Israël, même lorsque tout ça s'exprime sous forme d'invitation à la prière. Et puis de l'autre, il y a le passé des relations judéo-chrétiennes. Passé douloureux qui se cristallise aujourd'hui dans l'affaire du Carmel d'Auschwitz. Il me semble que ces deux affaires, d'une manière ou d'une autre, manifestent, sinon l'incapacité, du moins l'extrême difficulté des chrétiens à comprendre ce qui est en jeu dans la destinée, dans l'histoire et la souffrance du peuple. Et il me semble aussi que ces deux sujets sont liés parce que nos prises de position par rapport à l'un sont généralement conditionnées par d'autres. Lorsque ce conditionnement est occupé, il n'est pas explicite. Alors je remercie infiniment M. Rabbin Ashkenazi d'avoir accepté de nous aider à réfléchir sur tout ça à la fois, parce que ce n'est pas très facile, et à nous dire franchement comment il voit nos positions chrétiennes en ce moment par rapport à cette actualité et ce passé récent, pour nous dire quelle cohérence ou quelles absences de cohérence il nous sert, ou quels commentaires il peut faire, et quelle aide il peut nous apporter dans notre vie.
Merci. Et bien que je crois que vous avez extrêmement clairement et de façon très précise posé le problème, et je voudrais en toute petite introduction essayer d'exprimer comment je vois d'abord la difficulté de ce sujet dans notre dialogue. C'est qu'en fait, même si nous employons la même langue, et pour moi il s'agit d'une langue étrangère, et peut-être pour vous aussi, pas plus français peut-être, mais, si, quand même. Alors, oui. Et alors, traduire des nuances de conditions profondes d'une histoire qui se branche sur près de 2000 et là, de nombreux dialogues, et confronté aux événements massifs que je vais rappeler à mon tour tout à l'heure, et même si nous employons les mêmes mots, au fond, nous n'avons pas, en tout cas pas encore, de langage commun. Et il faut bien avoir cela présent à l'esprit. Et je vais être obligé de vous inviter dès l'anglais à un dépaysement au niveau même du langage, même si nous employons des mots qui ne sont pas les mêmes. Et j'emploie peut-être pour éclairer cela une image. Le sens de notre écrit. que vous avez enlevé, nous écrivons de droite à gauche. Apparemment, en réalité, l'écriture va vers la droite, c'est la main qui va vers la gauche. Et en français, disons dans la langue comme le latin et le grec, c'est le sens exactement inverse. L'écriture va vers la gauche, bien que la main semble aller vers la droite. Et là, c'est le problème des deux mains. Il y a aucune impossibilité absolue de faire coïncider. Et pourtant, ce sont deux mains. Et deux mains de l'homme, la droite et la gauche. Et essayons de faire coïncider ces deux mains, c'est pas possible. Il fallait qu'une phase dans la quatrième dimension pouvait devenir l'envers des mains. Je crois qu'il se passe un peu cela entre juifs et chrétiens et biblique. Et si je posais la question par rapport aux angles chrétiens, par exemple, lequel des deux est en envers ? Bien, aucun des deux, puisque chacun a son angle.